VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à tous et à toute le monde aujourd'hui, édition du mardi 10 mars 2020. En direct de Washington, Idrissa Seloudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Au Mali, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans se dit prêt, sous condition, à négocier avec le gouvernement de Bamako.
Au Burkina Faso, au moins 43 civils tués dans de nouvelles attaques contre des villages peuls par des groupes d'autodéfense du Nord, dans le sillage des attaques djihadistes.
En Guinée, deux responsables de la contestation contre un éventuel troisième mandat du président Alpha Condé ont été inculpés et écroués, selon un de leurs avocats.
Cameroun, Amnesty International demande une enquête sur la disparition en 2014 de 130 personnes dans le Nord, au plus fort de la lutte contre le groupe djihadiste Boko Haram.
Rome a étendu à toute l'Italie les mesures confinant déjà un quart de la population dans le Nord afin de lutter contre le coronavirus.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Au Mali, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, principale alliance djihadiste du Sahel affiliée à Al-Qaïda, s'est dit prêt à accepter de négocier avec Bamako. Cette branche d'Al-Qaïda exige au préalable le retrait des forces de la France et de l'ONU. Des détails avec Michel Joseph.
Nous sommes prêts à engager des négociations avec le gouvernement malien pour discuter des moyens de mettre fin au conflit sanglant entré dans sa 7e année, dit le groupe dans un communiqué publié par sa plateforme Al-Zalaka et authentifié lundi par le Centre américain de surveillance des sites djihadistes, CIT. Il ne saurait être question de négociation à l'ombre de l'occupation avant le départ du Mali de toutes les forces françaises et de ceux qui les suivent, dit le GSIM. Justifiant sa prise de position comme une réponse à la demande exprimée par les Maliens lors de récentes manifestations, cette organisation veut que le gouvernement déclare ouvertement la fin de la présence de Barkhane et des troupes de la MINUSMA sur son territoire. Aucune réaction officielle au communiqué du GSIM n'est encore venue du gouvernement malien, de la France ou de l'ONU. Cette annonce fait suite à la récente décision du président malien Ibrahim Boubacar Keïta de rompre avec la ligne directrice suivie jusqu'alors officiellement dans le conflit en cours depuis 2012 et de tenter de dialoguer avec certains djihadistes maliens. Le nombre de morts au Sahel devient exponentiel et je crois qu'il est temps que certaines voies soient explorées, avait-il dit. Le chef de l'État malien avait aussi dit ne pas exclure des discussions avec le groupe État islamique et son chef local, Adnan Abou Walid Al-Sarraoui.
Au Burkina Faso, deuil national de 48 heures en mémoire aux victimes des villages de Dingila Peul, Barga Peul et Ramdola Peul. Hier, le ministre de la Communication, Rémi Fulgence Diandinou, a annoncé qu'au moins 43 civils ont été tués et 6 blessés dimanche dans plusieurs attaques contre ces villages peuls dans le nord du pays. Ces attaques ont été perpétrées par des groupes d'autodéfense du Burkina, où les attaques djihadistes et récurrentes ont fait des centaines de morts. Selon une source locale, ces groupes agissent en représailles aux attaques djihadistes en raison d'un amalgame entre djihadistes et peuls.
Et au Niger, 8 morts et 3 blessés dans l'attaque perpétrée par les djihadistes de Boko Haram contre une position de l'armée nigérienne à Chetima Wangu, dans le sud-est, près de la frontière avec le Nigeria. C'est le dernier bilan annoncé lundi soir par la radio publique nigérienne qui ajoute que côté ennemi, la quasi-totalité des assaillants a été neutralisée. Des sources locales avaient annoncé dimanche une importante attaque avec des soldats blessés transférés à l'hôpital de Difa, mais sans pouvoir fournir de bilan.
Amnesty International a demandé hier aux autorités camerounaises d'ouvrir une enquête sur la disparition forcée de 130 personnes dans le nord du pays en 2014, au plus fort de la lutte contre Boko Haram. Eric Manirakidza.
Selon Amnesty International, 130 hommes et garçons ont été arrêtés arbitrairement dans leur village du nord du Cameroun il y a plus de 5 ans et leurs proches sont sans nouvelles depuis. Pendant ce raid, 8 personnes ont été tuées, dont un mineur, et plus de 70 bâtiments réduits en cendres, souligne l'organisation, précisant que c'est après cet assaut que plus de 130 villageois ont disparu. À l'époque des faits, les autorités avaient reconnu l'arrestation de 70 hommes seulement et que 25 sont morts durant leur première nuit de garde à vue à la gendarmerie. Amnesty affirmait que l'identité des personnes décédées ou le lieu où se trouvent leurs dépouilles n'avait pas été révélée. Ni l'armée, ni le gouvernement n'ont réagi au rapport d'Amnesty, mais lors d'une conférence de presse lundi, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanganji, a accusé plusieurs ONG internationales, dont Amnesty, d'être engagées dans une démarche conspirationniste contre le Cameroun et contre les forces de défense et de sécurité. Face à la fréquence des attaques de Boko Haram, Yaoundé avait déployé des milliers de soldats dans l'extrême nord du Cameroun dès 2014 pour y combattre les djihadistes. Plusieurs ONG avaient accusé l'armée d'exactions contre des civils.
En Guinée, un tribunal de Conakry a inculpé et écroué lundi Ibrahima Diallo et Sekou Koundouno, deux responsables de la contestation en cours contre un éventuel troisième mandat du président Alpha Condé. Selon un de leurs avocats, Maître Mohamed Traoré, ils ont été inculpés d'outrage à agents, violence et voies de fait, production, diffusion et mise à disposition d'autrui de données de nature à troubler l'ordre public ou à porter atteinte à la dignité humaine, a-t-il expliqué à la presse. Il serait, dit-on, des lieutenants d'Abdourahmane Sano, coordinateur du FNDC, le collectif qui mène le mouvement de protestation depuis bientôt 5 mois.
Au Rwanda, un colloque consacré aux responsabilités dans le génocide des Tutsis de 1994 s'est tenu lundi au Sénat à Paris, provoquant la colère de Kigali qui estime que l'événement donne la parole à des théories négationnistes. Certaines personnalités invitées lundi considèrent qu'un autre génocide commis selon elles par les Tutsis du FPR, toujours au pouvoir, s'est déroulé dans la foulée en représailles contre les Hutus. Nous reviendrons sur ce colloque en seconde partie de cette édition.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici aux États-Unis, le coronavirus s'est rapproché de la Maison-Blanche et du président Donald Trump, personnellement en contact avec des élus mis en quarantaine, bien que lui-même n'ait subi aucun test. Mark Meadows, nommé il y a quelques jours pour devenir son nouveau directeur de cabinet, est actuellement en quarantaine volontaire après avoir été potentiellement en contact avec une personne testée positive au coronavirus. Et en Europe, la crise semble prendre de l'ampleur. Le point avec Jean-Roger Bion.
Mark Meadows serait entré en contact avec un participant testé positif à la grande conférence conservatrice CPAC. Il restera en quarantaine volontaire pour 14 jours. Il ne présente aucun symptôme et un test de précaution s'est révélé négatif d'après son porte-parole. 5 élus du Congrès américain avaient auparavant annoncé s'être mis eux aussi en quarantaine volontaire. 4 d'entre eux ont été exposés au virus, comme M. Meadows, lors de cette conférence près de Washington. Et parmi eux, au moins 2 républicains ont eu des contacts avec le président Donald Trump après avoir été exposés. L'épidémie a touché plus de 600 personnes aux États-Unis et fait au moins 26 morts. Ailleurs dans le monde, le président du Conseil italien Giuseppe Conte a étendu lundi soir à toute l'Italie des mesures de restriction prises ce week-end dans le Nord. Prolongation jusqu'au 3 avril de la fermeture de toutes les écoles et universités, interdiction des rassemblements publics et suspension de tous les événements sportifs. Avec 97 décès supplémentaires en 24 heures, l'Italie dénombrait lundi soir 463 morts liés au coronavirus pour un total de 9172 cas confirmés. En France, le ministre de la Culture, Franck Riester, a été testé positif au coronavirus qui a encore progressé lundi dans l'Hexagone vers le stade de l'épidémie causant au moins 25 morts.
La Chine, elle, a franchi mardi le cap des 4000 morts avec 17 nouveaux décès selon l'AFP. Le nombre de cas dépasse dorénavant les 113 000 dans 101 pays et territoires. L'Allemagne a annoncé ses 2 premiers décès, le Canada son premier. Les conséquences sont colossales sur le système financier. Les grandes places européennes et celles de New York ayant plongé d'environ 20% depuis le début de l'année, sous l'effet conjugué de l'épidémie et de la chute des prix du pétrole qui y est liée.
Les grandes bourses asiatiques étaient toutefois en hausse mardi matin, soulagées par un rebond des prix du pétrole après leur krach de la veille. Le président Trump a promis de tenir une conférence de presse aujourd'hui pour discuter de mesures majeures et de grande ampleur visant à soulager l'économie américaine. Il a notamment évoqué une éventuelle diminution des charges salariales qui doit être discutée mardi entre des membres de son administration et des responsables du Congrès.
Les États-Unis ont demandé en vote mardi, en vote du Conseil de sécurité de l'ONU, pour entériner via une résolution l'accord conclu avec les talibans le 29 février sur un retrait militaire américain d'Afghanistan, a appris hier l'AFP auprès de sources diplomatiques.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Talani.
Au Togo, le prix plancher Borchon des noix de cajou retenu pour la campagne 2020 est de 325 francs le kilo, rapporte le magazine Togo Times. Le prix d'un plan polygonal est égal à 300 francs CFA et le plan greffé est égal à 500 francs CFA. Pour cette saison lancée le 6 mars, 46 acheteurs grossistes et 178 sous-acheteurs ont été enregistrés. 20 exportateurs sont reconnus officiellement. L'achat des noix de cajou est subordonné à l'obtention d'une carte d'acheteur ou de sous-acheteur et un agrément d'achat, sans oublier le bordereau de transport des noix de l'intérieur vers Lomé. Les contrevenants seront sanctionnés par la loi. Le Nigeria veut revoir son budget à la baisse et stimuler sa production de pétrole pour faire face à l'effondrement des cours du baril dû à l'épidémie mondiale de nouveaux coronavirus. Le plus grand producteur africain devrait voir ses recettes diminuer dans la foulée de la chute des prix de pétrole dans un contexte de crise entre les producteurs majeurs que sont l'Arabie Saoudite et la Russie. Pour terminer, les coûts humains du coronavirus se sont accrus à un rythme alarmant, note l'économiste en chef du FMI, Gita Gopinath. La perte de revenus, la peur de la contagion et l'incertitude vont entraîner une baisse des dépenses des ménages et des licenciements. Les décideurs devront donc mettre en œuvre d'importantes mesures ciblées d'ordre budgétaire, monétaire et financière afin d'aider les ménages et les entreprises touchées.
Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Huitième de finale retour en Ligue des Champions ce soir en Europe.
Oui, l'Atalanta Bergame doit valider à huis clos son ticket pour les quarts de finale sur le terrain de Valence. Le gouvernement espagnol a pris cette décision en raison de la présence de supporters provenant de zones à risque, le nord de l'Italie étant l'une des zones les plus touchées par le coronavirus. Mais du côté de Valence, les rêves de voir plus loin sont minces après la déroute subie au match aller, 4-1. À Leipzig, l'autre rencontre de ce soir va se jouer avec des spectateurs. Elle demeure plus indécise car Tottenham, finaliste 2019, mais malmené à l'aller chez lui, défaite 1-0, reste en course pour refaire son retard. Toutefois, les hommes de José Mourinho sont sur une série catastrophique de 5 rencontres sans victoire.
Ronaldinho toujours en détention au Paraguay.
Oui, la star brésilienne du football a été arrêtée en compagnie de son frère Roberto. Tous deux sont accusés d'être entrés sur le territoire paraguayen en possession de faux passeports. La police a perquisitionné l'hôtel où logeaient les deux hommes et les enquêteurs y ont découvert de faux passeports confectionnés à Asensio, selon le ministre de l'Intérieur. Ronaldinho a été privé de son passeport brésilien par la justice de son pays fin 2018 à la suite de sa condamnation à une amende de 2,5 millions de dollars qu'il n'a jamais payé. La justice de son pays l'a ainsi condamné à cette amende pour avoir construit une jetée sans autorisation au bord d'un lac dans une aire protégée. Le Ballon d'Or 2005 est arrivé avec son frère au Paraguay pour faire la promotion d'un livre et participer à diverses opérations de bienfaisance.
La suspension de Jarion Lawson annulée.
Oui, le tribunal arbitral du sport a annulé la suspension de l'athlète américain pour 4 ans pour dopage. Il a été contrôlé positif sur la base d'un échantillon prélevé l'été dernier. Jarion Lawson a ensuite été suspendu à titre provisoire depuis août 2018, puis pour 4 ans en juin 2019 pour expliquer son contrôle positif. L'Américain a invoqué la consommation de viande de bœuf. Le TASS a estimé que cette explication est plus que probable et a jugé que l'athlète n'a commis ni faute ni négligence. Lawson a remporté la médaille d'argent du concours du saut en longueur au championnat du monde de Londres en 2017 avec un bond à 8,44 m derrière le Sud-Africain Luvo Manyonga. On parle de basketball pour finir avec vous, Idrissa, les résultats de la nuit dernière en NBA.
Atlanta et Charlotte 143 à 138, Denver et Milwaukee 109 à 95, Toronto et Utah 101 à 92.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Sedoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Niger, les cours et tribunaux sont restés fermés hier. Le syndicat des magistrats ayant appelé à une journée dite « justice morte » pour protester contre la manière dont le gouvernement veut traiter les conclusions d'un audit qui a relevé de graves détournements de fonds publics au ministère de la Défense nationale. De Niamey, notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
À quelques exceptions près, les magistrats ont répondu à l'appel de leur syndicat.
Nous pouvons aisément dire qu'elle est bien suivie, cette action-là.
Déposer une journée entière les toges noires pour protester contre la décision du gouvernement annoncée après les conclusions d'un audit sur les marchés d'achat d'équipements pour les militaires engagés dans la lutte contre le terrorisme. L'audit révèle d'importants détournements et met en cause plusieurs opérateurs économiques proche du régime. L'exécutif somme ces derniers de rembourser et c'est seulement les dossiers de ceux qui refuseraient de s'exécuter qui seront transmis à la justice. Pour les magistrats, cela a un nom, immixtion d'un pouvoir dans un autre. Nuhu Aboubakar, secrétaire général du syndicat autonome des magistrats du Niger.
Le gouvernement a ses attributions, de par la Constitution. Le pouvoir public et le pouvoir judiciaire a ses attributions. De par la Constitution. Le pouvoir législatif a ses attributions de par la Constitution. Qu'est-ce qu'il y a de contraignant à faire respecter les attributions des uns et des autres? Il n'y en a pas. Ce n'est pas une contrainte, ça c'est le bon sens. On n'a pas besoin de hausser le ton ou de protester pour amener l'autre à respecter les attributions de tout un chacun. C'est une question de bon sens, une question de conformité aux lois et règlements de la République, tout simplement. Ça, c'est une première expérience et vous avez déjà vu les résultats que ça a donné. Prochainement, ça sera plus qu'une simple action de protestation.
Dans leur combat, les magistrats ont le soutien des autres acteurs de la chaîne judiciaire. Ensemble, ils ont décidé de mettre en place un cadre commun de lutte. Maître Boubacar Oumarou est le bâtonnier de l'Ordre des avocats du Niger.
Le barreau du Niger, le syndicat national des agents de la justice, l'association des jeunes avocats du Niger et le syndicat autonome des magistrats du Niger annoncent la création d'un cadre de concertation des acteurs de la justice, CCAJ, auquel tous les autres corps de la famille judiciaire sont invités à se joindre pour la défense permanente de la justice nigérienne. Réaffirment leur engagement pour la défense des principes et valeurs fondamentaux de la justice, dernier rempart contre l'arbitraire. Demande au gouvernement de transmettre sans délai aux autorités judiciaires compétentes le rapport définitif de l'audit du ministère de la Défense nationale afin qu'il soit traité conformément aux lois et règlements de la République.
Pour maintenir la pression sur le gouvernement afin qu'il change d'option et transmette enfin le dossier à la justice, plusieurs organisations de la société civile ont appelé, elles, à une manifestation de rue dimanche prochain à Niamey et dans les autres villes du pays. Abdelrazak Idrissa, à Niamey, pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
En République du Congo, 5 activistes arrêtés entre octobre et décembre 2019 sont toujours détenus à la prison d'arrêt de Brazzaville, officiellement accusés d'incitation au trouble et à l'ordre public et d'atteinte à la sécurité de l'État. Joint à Brazzaville par Nani Talani, Trésor Nzila, directeur exécutif de l'Observatoire congolais des droits de l'homme.
Ils sont membre du mouvement citoyen Ras-le-bol, membre de l'association des incarneurs d'espoir. Ils sont très actifs sur les réseaux sociaux et aussi actifs sur le terrain. À un, Céleste Lenvo Maleka, on lui reproche le chef d'incitation au trouble à l'ordre public sur la base de la loi sur les partis politiques. Or, il s'avère que Céleste Lenvo Maleka n'est ni dirigeant ni membre d'un parti politique. Les quatre autres, on leur reproche le chef d'atteinte à la sécurité de l'État. Alors là, il s'agit d'une infraction extrêmement grave qu'on cause de façon aussi légère à des jeunes activistes.
En tant qu'organisation de défense des droits de l'homme, quelle appréciation faites-vous des charges qui sont retenues contre ces personnes?
Pour nous, il s'agit là des détenus d'opinion parce qu'ils sont détenus uniquement dans le cadre du droit à la liberté d'expression et des réunions. Donc ce sont des motifs pour nous qui ne se justifient pas et que le maintien en détention de ces jeunes activistes ne peut se justifier ni sur le plan humain, ni sur le plan légal.
Ont-ils déjà été présentés devant un juge?
Oui, effectivement. Et nous avons engagé des avocats qui travaillent au stade actuel de la procédure et au regard du vide même des dossiers, nous pensons que la place de ces jeunes activistes n'est pas en prison, ils doivent être libérés.
Que risquent ces personnes si le procureur décide de poursuivre les accusations portées contre elles?
Cela suppose que ces jeunes activistes encourent la réclusion criminelle, puisque l'atteinte à la sécurité de l'État est une infraction criminelle. Et voilà pourquoi nous sommes en train de travailler là-dessus, en train de toucher tous les acteurs qui sont en mesure de faire la pression sur les autorités congolaises afin que les charges qui pèsent sur ces jeunes soient abandonnées.
Qu'est-ce que vous comptez encore faire pour garantir leur libération?
Nous sommes en train de renier ciel et terre. Aujourd'hui, nous avons adressé des correspondances à pas mal d'institutions internationales. Nous sommes en train de les toucher, y compris les partenaires du gouvernement congolais, pour qu'ils comprennent que la situation des droits humains est très préoccupante en République du Congo et qu'ils ont intérêt à tout faire à ce que le gouvernement congolais respecte ses engagements en matière des droits humains. Donc nous sommes là en face d'une situation inadmissible, d'une injustice. Je vous fais aussi une confidence que ce matin, nous avons écrit au président de la République en sa qualité de garant des droits fondamentaux des citoyens de prendre les mesures nécessaires afin que ces jeunes activistes soient libérés.
Êtes-vous certain que toutes ces actions vont aboutir à ce que vous souhaitez?
On reste optimiste. Les autorités congolaises gagneraient en rendant la liberté à ces jeunes. Les maintenir en prison ne fait qu'écorcher encore l'image du pays qui est déjà très négative sur la question des droits humains. Et donc là, l'occasion est donnée aux autorités congolaises de se ressaisir et de rendre la liberté à ces jeunes parce qu'ils n'ont rien fait de grave. Les jeunes activistes qui, sur les réseaux sociaux, affichent une sympathie envers un mouvement politique basé en France ne constituent pas un crime.
Joint hier à Brazzaville, Trésor Nzila, directeur exécutif de l'Observatoire congolais des droits de l'homme.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24 heures sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
En France, le Sénat a organisé hier un colloque sur l'histoire de l'Afrique des Grands Lacs visant à réfléchir sur les responsabilités dans le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Ce colloque s'est attiré les foudres de Kigali qui estime que l'événement a donné la parole à des personnalités connues pour leur théorie négationniste. Claire Morin-Gibourg a joint l'historienne et spécialiste du génocide rwandais Hélène Dumas.
C'est très paradoxal de voir que, par exemple, l'histoire du génocide des Tutsis, l'histoire des politiques judiciaires qui ont été appliquées après l'événement vont entrer dans les programmes scolaires en France à la rentrée prochaine, et que dans le même temps, on a un colloque qui est organisé donc sous les ordres du Sénat avec des personnes dont des propos à la fois oraux et écrits n'ont eu de cesse depuis près de 25 ans de remettre en cause la réalité même, la réalité historique du génocide des Tutsis, d'en proposer des interprétations biaisées visant à en minimiser la portée. Donc je pense que le scandale vient de là. Il vient d'une part du fait qu'on donne une tribune publique à des auteurs connus pour leurs propos négationnistes, et cette tribune, qui plus est, une tribune, je dirais, officielle, puisqu'il s'agit du Sénat français, hein, d'une instance représentative française, même si le Sénat, par ailleurs, s'est défendu d'avoir lui-même organisé ce débat. Il l'a à tout le moins accueilli, et je pense que c'est les deux éléments qui font scandale.
Il y a eu réaction également du côté de Kigali. Le président du Sénat a écrit au président du Sénat français pour demander que le colloque soit annulé. Et aujourd'hui, les autorités rwandaises ont réagi. On sent une certaine colère. Est-ce que cela vous étonne ?
Non, ça ne m'étonne pas du tout. Alors après, il faut distinguer la réaction politique du Rwanda et des autorités françaises, et puis les réactions intellectuelles et civiques. Là, je pense aussi qu'en tant qu'historien, en tant que chercheur sur l'histoire du génocide des Tutsis, on peut être aussi légitimement scandalisé par la tenue donc d'un tel colloque. Il faut quand même rappeler ce que deux des auteurs invités dans les tables rondes disent du génocide des Tutsis. Je prendrai par exemple le cas de Charles Onana, qui, dans un de ses ouvrages paru en 2009, au titre suffisamment explicite, ces tueurs Tutsis, présentait toutes les femmes Tutsis comme des armes du FPR, du Front Patriotique Rwandais. Quand on sait le sort qu'ont connu les femmes Tutsis pendant le génocide, c'est-à-dire qu'elles ont été violées de manière systématique et que les trois quarts d'entre elles sont aujourd'hui infectées par le VIH, c'est des propos absolument intolérables. Ou lorsque Jody Rever explique dans son livre, dans un chapitre qui s'appelle « La cinquième colonne », que les civils Tutsis, c'est-à-dire des femmes, des enfants, des gens qui n'avaient rien à voir avec la politique du FPR, ont mérité leur sort, en quelque sorte, parce qu'ils étaient tous des militants du FPR, ces propos sont tout simplement scandaleux.
Pensez-vous que cela va avoir des conséquences sur les relations entre Paris et Kigali ?
Alors, je ne sais pas, je ne peux pas prédire l'avenir, mais c'est vrai que le constat que l'on peut faire, que l'on peut établir, c'est que ce colloque intervient, là encore, dans un moment très particulier de réchauffement des relations entre Kigali et Paris. Je dirais sur ce point que, évidemment, l'exécutif français n'a pas prise sur la représentation nationale, le Sénat, mais il est vrai que un peu de courage politique de la part du Sénat aurait sans doute permis que ce colloque n'ait pas lieu, et il intervient vraiment dans un moment où les relations semblaient s'améliorer, et c'est un peu contradictoire avec tous les gestes de réconciliation très patientes qui ont été posés ces dernières années.
Jointe hier, Hélène Dumas, chargée de cours au CNRS, est spécialiste de l'histoire contemporaine rwandaise.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
La triathlète américaine Julie Moss est un symbole de la puissance de l'esprit humain et du vrai dévouement, même face à la douleur et à l'épuisement. Angelina Dagdasarian a rencontré la légende du championnat du monde d'Ironman, Yacouba Ouedraogo.
Faire du jogging le long de la rive de l'océan est un rituel pour Julie Moss. Beaucoup la considèrent comme la triathlète la plus célèbre dans le monde après qu'elle ait littéralement rampé jusqu'à la ligne d'arrivée dans le championnat du monde d'Ironman en 1982 à Hawaï. Moss a terminé deuxième dans cette course après avoir parcouru 3,8 km de nage, 180 km à vélo et 42 km de course. L'événement a été retransmis en direct à la télévision américaine.
Je l'ai regardé après à la télévision et j'ai été hypnotisée, n'ayant pas vraiment fait quoi que ce soit compétitivement, athlétiquement. J'étais une surfeuse californienne, j'étais étudiante et j'étudiais l'éducation physique et la kinésiologie. Et je pense que ce fut un grand projet.
Sans formation spéciale, Moss s'est retrouvée de façon inattendue à la tête de la course, mais tout à coup, son corps a cédé.
Dans les 16 derniers kilomètres du marathon, j'étais en difficulté. Mes calories ne semblaient pas me donner de l'énergie. Et j'étais tellement inexpérimentée par rapport à cette longue journée. Donc pour la dernière heure, j'ai eu l'impression que j'essayais juste de passer d'une station à l'autre pour obtenir un peu de nourriture. Puis c'est au dernier kilomètre que mes jambes se sont effondrées. J'ai dû me battre pour ne pas abandonner et me recentrer sur ce que je pouvais faire. Trouver un moyen de décoller. Et quand mes jambes ne faisaient plus attention aux signaux de mon esprit, j'ai compris que je pouvais utiliser mes bras.
Moss avoue qu'elle avait un peu honte. Après tout, elle était regardée par des dizaines de millions de téléspectateurs à travers le monde.
C'était difficile physiquement parce que mon corps s'écroulait. Je pense qu'au fur et à mesure que c'était dur physiquement, mon esprit devenait plus fort.
Elle a continué à se battre jusqu'à la ligne d'arrivée sous le regard de milliers de personnes.
Kathleen McCartney, qui avait initialement environ 20 minutes de retard, a devancé Moss à quelques pas de la ligne d'arrivée, mais le monde se souviendra toujours de Moss.
Iron Man a changé ma vie. Le changement s'est produit dans ce dernier kilomètre d'Iron Man. Et j'ai appris que c'est quand vous êtes dans une situation extrême que vous découvrez de quoi vous êtes vraiment capable. Ce que l'Amérique a vu et ce que le monde a vu dans ma course à Iron Man, c'est que nous avons tous une force en nous, de sorte que nous pouvons aller aussi loin que nous voulons.
Aujourd'hui, pour des raisons de santé, Moss ne peut pas participer au marathon, mais à 61 ans, elle a encore un rêve.
L'un de mes rêves, c'est peut-être d'être là sur la ligne de départ au 50e anniversaire d'Ironman.
Certains pourraient dire que c'est fou, mais rien n'est impossible pour Moss. Elle a prouvé non seulement à des millions de personnes, mais aussi à elle-même.
Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Jimmy Cook. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoulia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.